On vous emmène maintenant au cabinet du livre d'artiste à la maison des étudiants du campus de Rennes 2. Lieu d'exposition et de lecture de l'art, plus de 3000 titres sont mis à disposition de tous à la manière des cabinets de lecture du XVIIe et du XIXe siècle. On a rencontré Aurélie Nourry, la coordinatrice du cabinet, lors de la soirée de lancement du projet photographique Kyriel. Ce qui tient à cœur à l'équipe du cabinet du livre d'artiste, démocratiser l'art contemporain.
Alors quand le projet du cabinet s'est monté, donc effectivement c'est ça, c'est un projet des éditions Un Certain Sens, qui sont d'abord une maison d'édition. L'idée c'était d'avoir une vitrine et une espèce de lieu dédié au phénomène livre d'artiste, avec différentes entrées, la bibliothèque, les expositions, le lieu de lecture. Dès le départ, l'idée c'était de surtout pas s'installer dans un lieu dédié ou spécifiquement dédié à l'art, pas dans un lieu spécialisé. Donc au départ, le cabinet a été monté pour être dans la BU, dans la bibliothèque universitaire, au milieu des autres livres. Il a ensuite déménagé, il y a eu 3 endroits différents dans la fac, mais nous, on a toujours tenu à rester justement dans un lieu totalement neutre et de mélanger les livres d'artistes aux autres livres, parce qu'il n'y a pas de raison de considérer les livres d'artistes comme autre chose qu'un livre, de notre point de vue. Donc l'idée, c'est d'encourager la consultation, l'emprunt, puisqu'on peut aussi emprunter des livres, ce qui est assez exceptionnel pour des livres d'artistes, comme un livre ordinaire. Donc ne pas être installé ni dans un musée, ni dans une institution artistique, participe bien évidemment de cette volonté de drainer des amateurs, des curieux, des gens qui ne connaissent pas à l'objet livre d'artiste. Ouais. Justement, on met vraiment l'accent sur la consultation, c'est-à-dire qu'on encourage tout le monde à venir consulter et emprunter les livres. Il y a quand même quelques cas de livres exclus du prêt, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a certains livres qui sont très fragiles ou un petit peu rares, mais c'est relativement rare. La plupart des livres peuvent être manipulés comme vous voulez et amener à la maison en faisant évidemment un petit peu attention. Enfin, il ne s'agit pas non plus de maltraiter l'objet, mais c'est très simple. Enfin, il n'y a même pas besoin d'être inscrit. Les étudiants rentrent, on prend leur carte étudiant, on prend leur numéro de téléphone et puis voilà, on leur fait confiance et ça marche très bien comme ça depuis le début de l'existence du CLA. Il y a des prêts réguliers et il n'y a aucun problème. Enfin, il n'y a jamais eu de problème.
Et pour rendre le livre d'artiste accessible à tous, le journal Sans Niveau Ni Maître des éditions Un Certain Sens du cabinet, distribué gratuitement à chaque exposition, présente des œuvres inédites d'artistes.
Ça participe de la même volonté de démocratisation de l'art contemporain. Nous, on part du principe que le livre étant un objet familier, accessible, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça décomplexifie un petit peu le rapport à l'art contemporain, qui est parfois un peu difficile pour les gens. Parfois, rentrer dans un musée, rentrer dans une galerie, ça peut un peu dissuader certaines personnes. Donc là, le livre est un objet facile d'accès, qu'on peut toucher en plus. Et le journal participe également de ça. C'est vraiment l'idée d'un imprimé qu'on peut distribuer dans la rue gratuitement, les gens peuvent partir avec et on considère le journal comme un prolongement d'exposition. Ce qu'on demande à l'artiste en général, c'est un travail totalement inédit conçu pour le journal, c'est-à-dire qu'on lui demande d'éviter de faire une reproduction d'une œuvre qui serait ailleurs, mais de vraiment concevoir une œuvre pour ce support-là et ce format-là. Donc ça permet surtout de diffuser des œuvres gratuitement, puisque finalement l'œuvre existe que sous la forme du journal. Et en plus, dans le journal, il y a ce qu'on appelle un édito à chaque numéro qui va quand même apporter un éclairage sur ou l'artiste ou son œuvre ou la thématique de l'exposition, en essayant de simplifier un maximum les concepts et de présenter la chose de la façon la plus simple possible. Ouais.
Enfin, on a discuté avec Aurélie d'une problématique complètement omniprésente aujourd'hui, le numérique. Alors, le livre d'artiste et le numérique, est-ce incompatible ?
Je crois que les gens, les éditeurs, enfin tous les acteurs du livre ont eu un peu peur du péril numérique. Bon, je crois qu'il n'en est rien. Je crois que tout le monde peut vivre à côté sans problème. Souvent, quand des nouvelles techniques apparaissent comme ça, on a un petit peu peur. C'est comme quand la photo est apparue, c'était l'engin du diable pour les peintres. La peinture allait mourir parce que la photo faisait beaucoup mieux. Bon, finalement, il n'en est rien. Moi, je trouve que c'est un formidable outil, le numérique, pour tout ce qui concerne la documentation. C'est un outil documentaire génial. C'est-à-dire, on peut chercher un mot dans un livre, on peut agrandir le texte comme on veut, on peut faire du copier-coller, enfin, combien de fois on n'a pas à chercher une phrase dans un livre, on savait qu'on l'avait lu et puis on avait besoin de la chercher, et puis on feuilletait le livre, on se disait « Ah, c'était sur la page de gauche, c'était un peu en bas », et finalement on ne trouve jamais la phrase. Bon, ça, avec le numérique, c'est hyper confortable. On peut consulter des livres avec Gallica, des incunables, enfin des livres extrêmement rares en ligne. Enfin, pour moi, c'est un outil formidable. Maintenant, je crois que ça met absolument pas en péril le livre d'artiste, parce que le livre d'artiste est précisément un livre d'artiste conçu pour le papier. Donc pour tous les livres qui sont conçus pour le support papier, pour moi il n'y a aucun danger. Enfin, les artistes conçoivent leurs livres justement pour un support particulier, ça a besoin d'être manipulé, il faut qu'on tourne les pages et l'œuvre doit exister comme ça. En revanche, les artistes qui conçoivent leurs livres pour l'outil numérique, ça existe, et ben c'est tout aussi intéressant et le médium là répond à un projet de l'artiste. Et donc là ça colle, le fond et la forme sont complètement cohérent. Donc s'amuser maintenant à numériser des livres d'artistes, à part pour une perspective documentaire, c'est-à-dire on va pouvoir consulter quelque chose pour juste de l'information, oui, mais qu'on ne s'attende pas à l'appréhension sensuelle et directe qu'on a avec le livre papier, avec un livre d'artiste numérisé. Pour moi, ça a juste une valeur documentaire et de conservation, mais sûrement pas d'appréhension ou de lecture. Voilà. Donc je crois que les choses sont assez à leur place finalement et l'un n'empêche pas l'autre en fait. Voilà.
Moi de mon côté, j'avais envie de poser quelques questions à un des fondateurs de cette édition qui est Kyriel. Je suis donc allée voir Richard Louvet qui m'a parlé de cette collaboration ainsi que du métier de photographe. On écoute.
Richard Louvet, artiste, photographe, graphiste et enseignant.
Vous faites partie d'un collectif de 7 personnes. Comment vous est venue l'idée de fonder le BIP, donc le Bureau d'Investigation Photographique ? C'est une histoire de rencontre, d'opportunité à saisir ?
Cette édition, elle clôt définitivement cette aventure en commun, qui est née en 2004 à l'initiative de Mathieu Tremblin, un ami qui avait l'intention de lancer l'idée d'un projet commun autour de la photographie quotidienne. Donc vraiment la photographie qu'on va cueillir au quotidien avec toujours son appareil sous la main, à une époque où ça restait quand même encore de la photographie argentique. Ce projet, en fait, il s'est cristallisé autour de 7 personnes qui toutes avaient fait Rennes 2, donc ça c'est vraiment important aussi de le souligner. Pas forcément tout à fait au même moment, même si le noyau dur a fait les mêmes cours entre 99 et 2003-2004 à peu près. A vécu un petit peu ce petit bonhomme de chemin pendant une dizaine d'années au travers des projets d'opportunités en fonction des envies de chacun, en fonction des rencontres aussi, hein, ça s'est construit comme ça. Le projet Kyriel, il est arrivé en 2011, à un moment où on était en résidence à Pont-Aven. Il y avait un lieu qui s'appelait Les Verrières à l'époque, qui était un lieu de résidence d'artistes. On a eu la chance d'être en résidence pendant une année dans ce lieu, notamment pour construire ce projet commun de Kyriel.
Chaque artiste répond à sa manière avec sa propre subjectivité. Malgré tout, il y a une unité dans ce livre. Qu'est-ce qui vous rassemble en fait à travers Kyriel ? Quelle volonté peut-être ?
Je crois que la volonté première de Kyriel, c'était d'abord de pouvoir activer le travail du collectif photographe. C'est souvent un artiste assez solitaire dans sa pratique, seul un peu avec son matériel, son sujet. Personnellement, c'est quelque chose que j'avais envie de dépasser au travers un projet qui pouvait nous rassembler. Et j'avais envie de mettre en travail la vision photographique de chacun par le jeu, hein, le principe de la Kyriel, où on pouvait aller piocher dans nos réserves photographiques et on allait peut-être interagir, comme ça on allait monter une série à 7 qui totalement artificiellement ex nihilo, qui partait pas du tout d'un sujet préétabli mais qui se montait en temps réel presque. Donc je crois que tout le monde a bien voulu jouer le jeu parce que ça permettait d'abord effectivement d'activer une espèce d'échange autour de l'image. Ça permettait aussi d'exhumer des photos qui pour la plupart avaient jamais été montrées finalement, qui ne faisaient pas forcément partie d'une série, parfois oui mais souvent non. Donc voilà, ça permettait aussi ça. Il y a plusieurs entrées dans ce projet Kyriel, en tout cas dans le faire, hein, dans la réalisation du projet.
J'ai lu que vous disiez que la démarche photographique du collectif mêle la rigueur documentaire aux libertés d'une photographie plasticienne. Pour vous, le métier de plasticien s'apparente à celui d'un chercheur ?
Je pense que le BIP s'est monté aussi avec des gens qui étaient en sortie d'université, qui ont été formés à cette école de l'université, à une école de recherche. C'est pas anecdotique parce que je pense que ça a teinté très, très fortement notre rapport à l'image. À l'époque, en tout cas, personne n'avait fait d'études de photographie. Hein, depuis, Émilie notamment était passée après par Arles, mais pas encore à ce moment-là. On avait un regard finalement très transversal par rapport à l'image, pas du tout dogmatique d'une certaine manière. Est très ouvert sur la possibilité d'une image. Sur les 7 personnes, certains étaient peut-être un petit peu plus intéressés par le reportage ou le documentaire, mais beaucoup étaient intéressés par une image autonome d'une certaine manière qui pouvait se valoir par elle-même. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il semblerait peut-être avoir une unité dans ces images-là. Elles ne sont pas tant le fruit de photographes, entre guillemets, labellisés, qui auraient été passés à la moulinette d'une école, qui les auraient d'une certaine manière formatés. Aujourd'hui encore, chacun qui a une pratique photographique a une pratique toujours un petit peu transversale, que ce soit Mathieu Tremblin, que ce soit Philémon, Bruno Elisabeth, que ce soit moi, Émilie Traverse également. Je pense qu'on reste attaché à que la photo puisse être un moyen, mais pas forcément une fin.
Pourquoi avoir choisi le format de Leporello ?
La première série, elle représentait un corpus de 150 photos. On s'est posé la question de comment montrer ce corpus de 150 photos. C'était pas forcément judicieux de tout montrer, donc on est redescendu à une soixantaine de photos. On a souhaité, d'une certaine manière, faire un deux en un. Pour nous, c'est un livre-objet et un livre-exposition qu'on peut très bien déployer dans l'espace et tout de suite avoir ces tirages, soit sur un mur, soit sur une table. Mis bout à bout, on a presque 12 mètres d'exposition mobile et qui, une fois replié, tient dans un livre qui fait 22 cm de haut sur 16 de large, quoi. Donc c'était cette modularité-là qui semblait être opportune pour bien répondre au projet. Cette mobilité-là, elle répondait bien aussi à ce qui est l'essence du BIP au début, c'est vraiment la photographie quotidienne, la photographie qu'on va aller chercher là où elle est. La mobilité du livre est intéressante aussi pour ça. À n'importe quel moment, il y a un jeu d'aller-retour qui peut être fait, on peut le lire dans un sens comme dans l'autre. On peut le prendre en plein milieu, à la fin, etc.
Oui, c'est une sorte d'exposition de poche. Votre travail, c'est le fruit d'une collaboration de 10 ans.
Alors, la fin officielle, disons que c'est aujourd'hui. Donc 2017. Donc.
On espère que ça vous aura donné envie, chers étudiants, d'aller faire un tour au cabinet du livre d'artiste qui se situe dans le bâtiment et rêve du campus.